Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue à En toute bonne foi. Sachez que nous enregistrons cette émission le 14 mars pour des raisons pratiques et comme l'actualité va à toute vitesse en ce 22 mars où elle est diffusée, peut-être que les choses auront évolué vers une paix surtout. Alors nous ferons aujourd'hui un tour d'actualité des événements actuels en Moyen-Orient et évoquerons notamment la visite il y a quelques semaines du pape au Liban, car nous avons l'honneur d'accueillir Jean-Claude Antakli, originaire du Moyen-Orient, qui fut là-bas en décembre dernier. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour madame.
Jean-Claude, vous êtes fidèle déjà à l'émission, biologiste, auteur. Merci de revenir donc pour nous parler de ce qui se passe là-bas, au Moyen-Orient. Votre livre « L'itinéraire d'un chrétien d'Alep » en est déjà à sa sixième édition. Saint Charbel, l'ermite du Liban et Dieu existent, d'autres livres que vous avez écrits il y a quelque temps aux éditions du Parvis, sont disponibles à la vente à la sacristie de l'église Saint-Julien le Pauvre, paroisse grecque Melkite, qui est très souvent ouverte hein, pendant la journée, cette sacristie. J'y suis allée et j'ai remarqué qu'on y était toujours très bien accueillis. Donc, amis auditeurs, sachez que vous pouvez vous procurer les livres de Jean-Claude dans cette église qui se trouve à deux pas de Notre-Dame et mérite bien une visite. Sachez qu'elle a été construite au XIIe siècle. Je rajouterai, Jean-Claude, que vos livres sont vendus au profit de l'association Baroudeur de l'Espoir. Alors, avant de commencer, pouvez-vous nous dire deux mots sur cette association, puisque les gens qui vont acheter vos livres le feront aussi au profit de cette association. Pouvez-vous nous la présenter, s'il vous plaît?
Oui, tout d'abord, je vous remercie, Radio Courtoisie et vous, chère France, de m'accueillir. Alors, les baroudeurs de moi, bon, j'ai une forme de pudeur à en parler parce que c'est ma fille qui l'a fondée il y a près de 10 ans, avec, il faut le reconnaître, 100 bénévoles de Paris, de toutes les catégories sociales, qui ne connaissent ni le Liban ni la Syrie, mais qui font un travail remarquable auprès des enfants qui sont défavorisés et surtout les enfants qui sont victimes des dégâts collatéraux des guerres, aussi bien en Syrie qu'au Liban. Au Liban en particulier, dans la Beka, où il y a des camps de réfugiés, que j'ai visités plus d'une fois, c'est vous dire la détresse dans laquelle, et l'urgence d'aujourd'hui, est encore plus aiguë. Alors, si vous le permettez, je ne prendrai pas une minute de silence pour mes compatriotes, qu'ils soient libanais, syriens, je dirais même iraniens. Vous savez, en venant du sud jusqu'ici, j'étais en train de me demander à quel saint, il faut s'y fier aujourd'hui pour que la paix arrive.
Oui.
Très rapidement, vous savez, je suis arrivé en France il y a environ 60 ans. Mmh. En 62, la France rétablissait ses relations diplomatiques avec la Syrie et avec l'Algérie. Et à cette période, j'ai traversé le désert en venant faire des études médicales. J'ai côtoyé la solitude, la faim. J'avais pas de bourse. Bon, bref, une traversée de désert, mais c'était pas grand-chose quand on arrive à surmonter et qu'on tombe sur une femme qui est devenue mon épouse, que j'ai rencontrée sur les bancs de la faculté de médecine de Lyon. Mais par contre, ce que je vis depuis 60 ans, ces guerres me mettent, si vous voulez, c'est une frustration, c'est une indignation. Depuis 67, guerre des six jours, 73, guerre du Kippour, 82, guerre au Liban, et j'en passe après la Libye, l'Irak et aujourd'hui l'Iran.
Oui.
Vous savez, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'aujourd'hui, pour les chrétiens et les musulmans du monde entier, qui vivent non pas le carême, ni le ramadan, ils vivent l'enfer. Une fois de plus.
Oui.
Alors, vous savez, durant cette visite-là du Saint-Père, en décembre où j'étais pour des reportages à titre spirituel, si j'ose dire, je ne ferai pas la publicité des revues qui publient nos reportages depuis plusieurs années, parce qu'ils savent que quand on va dans ces pays où il y a eu, paradoxalement, des choses extraordinaires, où la Vierge et le Christ se sont manifestés depuis 44 ans, depuis 82, aussi bien en Syrie au Liban, à travers trois femmes. Il y en a une qui est décédée l'année dernière, les deux autres sont vivantes, elles ne se connaissent pas. Il a envoyé un feu d'artifice, paradoxalement, parce qu'ils savaient peut-être que ce pays allait être d'une façon continuelle martyr.
Oui.
Voilà. Alors, vous savez, je vais répondre à vos questions. Je suis les médias, j'en fais partie, bien que j'ai eu un cursus médical. Les médias ou les politiques, ils sont dans l'indignation, ils sont dans les hypothèses, ils sont dans les prophéties, à savoir si Trump devait intervenir.
Oui.
À quoi sert tout cela ? À quoi sert tout cela ? Aujourd'hui, nous sommes devant le fait accompli. La guerre, elle est là. Or, vous savez, Jules César disait, la guerre, c'est pas un problème, alors que c'est grave. Mais quand on fait une guerre, il faut la gagner. Alors, ces guerres au nom d'Allah ou au nom de la démocratie, il y a une confusion du genre qui est très grave. Il faut un discernement. Vous savez, dans cette semaine qui précède les fêtes de Pâques, je crois que nos dirigeants, qu'ils soient d'Occident ou d'Orient, vraiment, s'ils étaient là face au Seigneur qui leur demande « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Quelle réponse ils pourraient apporter par rapport à l'urgence où il y a des gens qui meurent ? Vous savez, le Liban, il a été entraîné malgré lui. Il y a eu un vent d'espérance avec la venue du pape. Je peux vous dire, je l'ai côtoyé.
Oui.
Sa première visite a été sur le tombeau de Saint-Charbel.
Oui.
Vous savez,
oui,
qui
oui,
a fait l'objet
suis.
De beaucoup de miracles.
Oui, bien
on a,
sûr.
On a recensé...
C'est le record, le saint recordman.
C'est pas
38
une légende.
000, plus
Et
de 38
puis,
000
vous savez,
miracles.
Comme j'étais en contact avec le père Louis Matard, qui est l'archiviste, il m'a dit, cette année, nous avons encore une centaine. Vous voyez ?
Oui.
Bon, bref.
Alors,
donc,
attendez, Jean-Claude.
Voilà.
Revenez aux baroudeurs,
pardon, mais
s'il vous plaît.
Que je, oui. vous lance
alors, on
ce
va
cri
juste
d'alerte.
Parler des baroudeurs. Après, vous nous parlerez du voyage du pape que vous avez suivi sur place, ce qui est quand même extraordinaire. Donc, les baroudeurs de l'espoir, c'est une association qui est destinée aux enfants. Et, mais ça veut dire quoi ? Ce sont des hébergements, c'est une école, c'est... Qu'est-ce que
non,
c'est ?
Non, non, ce sont des enfants, c'est les plus défavorisés.
Qui habitent ? Où sont des enfants qui habitent ?
Au Liban, sans distinction.
Non, mais je veux dire, ils habitent dans des familles, dans des foyers.
Ils sont dans des camps de réfugiés.
D'accord.
C'est vraiment, je peux vous dire, c'est la misère.
Oui,
hein.
Oui.
Et en plus, si vous voulez, il manque de tout. Donc, pour ces familles,
oui.
vraiment la seule chose, à la limite, plus que l'eau ou le lait ou la nourriture, c'est le savoir. Parce qu'avec le savoir, ils peuvent avoir un avenir.
Oui.
Et c'est pour ça, cette association, disons, elle a cristallisé tous ses efforts sur le savoir.
Oui,
alors,
d'accord.
Le savoir comment ? Pas par correspondance, vous en doutez, parce que les conditions de vie, je peux vous dire, elles sont très difficiles sous détente. Bref, c'est 2 ou 3 fois par semaine, ce sont des cars qui sont équipés par oui. l'association et par les dons, bien sûr, des bénévoles, qui viennent avec des enseignants pour permettre à ces enfants de pouvoir suivre un cursus scolaire et puis plus tard universitaire.
Donc ils apprennent pour les plus petits à lire et écrire.
Exactement,
oui,
à dessiner,
d'accord.
etc.
Oui.
Et même il y a maintenant, disons, à cause de la guerre, bon, il se trouve que maintenant, oui. c'est encore plus urgent. Ils leur font faire des formations psychologiques en même temps de sport pour pouvoir, parce que ce sont des enfants qui sont traumatisés
bien
par
sûr.
Les guerres. Souvent, ils sont orphelins. Souvent, ils ont subi des traumatismes de violence sexuelle. Donc,
en plus.
Mais oui, mais bien
oui,
sûr. Mais c'est les conséquences des guerres, hélas. Mmh, mmh.
Donc, on peut faire confiance à cette association puisque votre fille donc, a créé cette association. Donc, on sait où vont les dons. C'est très
absolument.
Rassurant.
Absolument. Et elle est actuellement
alors,
au Liban.
Comment peut-on faire un don ? Est-ce qu'il y a une...
Ben, écoutez, ils ont un site. Je suis très mal placé pour le faire, mais je vous remercie puisque vous me donnez l'occasion. Disons, il faut savoir quand même, et c'est peut-être l'une des rares associations qui a très peu de frais de fonctionnement puisqu'il
n'y
a que ma fille et une secrétaire. C'est vous dire... dès que vous versez que ce soit 1 euro ou 10 euros ou 100 euros, à peu près 97% va intégralement au niveau des enfants pour les scolariser,
très
pour
bien.
Les aider et pour les encadrer.
Donc on rappelle le nom de l'association.
Ils ont un site, hein, de
les
toute façon.
Les baroudeurs de l'espoir.
De l'espoir, voilà.
Merci beaucoup Jean-Claude.
Et puis, juste une chose, 2 fois par an, ils organisent, depuis 10 ans, ils organisent pas des excursions, ils font des randonnées, par exemple dans les Alpes ou dans les Pyrénées,
oui.
qui durent 3 jours. Il y a une quarantaine de participants, ils sont encadrés par des moniteurs, et à ce moment-là, ils font des récoltes à cette occasion des dons,
oui.
et ils font un jumelage avec les enfants du Liban et de Syrie pour que les donateurs puissent toucher du bout du doigt comment les aides se font sur place.
Très bien.
Voilà.
Ah oui, c'est très concret. Alors, vous étiez au Liban en même temps que le pape, avec le pape.
Oui, ben écoutez, je ne vous cache pas, d'habitude, j'y allais tous les ans,
oui.
pour des raisons culturelles, etc., ou pour les reportages qui touchent Myrna de Soufanier, bon,
dont nous avions parlé dans une émission précédente,
parlé, et de Nouhad Chami, la miraculée exceptionnelle qui est décédée l'année dernière.
Oui.
Voilà, donc j'ai profité j'ai anticipé un peu, si j'ose dire, ce voyage, parce que d'abord, en tant que chrétien, j'avais, je dirais pas une prédilection, mais ce pape, je le sentais bien.
Mmh.
Donc j'ai fait ce voyage pratiquement 48 heures avant son arrivée.
Oui.
J'ai été à Jbeil, à 20 minutes de sa première visite, et donc j'ai pu... pratiquement le côtoyer dans des conditions très difficiles. Il faisait un temps exécrable. Beaucoup de pluie, beaucoup de froid. C'est à 1600 mètres d'altitude.
Beaucoup de monde.
Beaucoup de monde. Et je dois vous dire, c'était tellement sécurisé.
Oui.
Parce qu'il y avait le président de la République et son épouse qui l'accueillaient. Et même des journalistes libanais avaient du mal à accéder ou à filmer dans des conditions faciles. Bref, donc tant bien que mal, j'ai pu être sur place et j'ai pu, grâce au père Luis Mata, et surtout, 48 heures après, j'étais reçu par sa béatitude, Monseigneur Chararaï, qui est un camarade des anciens, des frères maristes, dont j'avais un petit peu ce privilège dû à l'amitié, à la confiance, où il m'a fait part un petit peu des discours que le pape avait durant toutes ses visites, parce que c'est lui qui l'a accompagné partout, que ce soit à Beyrouth, dans la capitale, ou dans les villes, ou dans les cliniques, ou à Naya.
Alors, voilà. Avant de poursuivre, nous allons faire une petite pause.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, ce voyage du pape au Liban.
Alors, ce que j'ai retenu, deux choses. D'abord, les conditions difficiles, mais ça, c'est la météo. Mais je dois vous dire, moi qui connais le Liban, pour avoir vécu presque autant qu'en Syrie, j'ai jamais vu autant, vous savez, le peuple libanais, chrétien et musulman confondu.
Mmh. Ça, c'est très important de le dire.
Oui, mais il y a une telle ferveur. Je peux vous dire, il y avait une queue énorme de gens qui s'étaient venus très tôt. Or, quand vous arrivez au village, vous ne pouvez plus y accéder. C'était organisé avec des cars, et j'ai failli louper le dernier car en voulant récupérer une brave sœur qui n'était pas motorisée. Mais ça, c'est la petite histoire. Bref, donc, il a été reçu avec une ferveur extraordinaire. Vraiment, c'était quelque chose d'unique.
Quel est le discours
marqué? Je vais vous dire, discours, il y en a eu plusieurs. Je rapporterai ce que sa béatitude m'a confié, qu'il était touché. Ce n'est pas juste des mots. Il dit, à toutes les interventions qu'il a eues, au niveau du port de Beyrouth, au niveau d'Anaya, au niveau de Pkerké, là où il y a le siège de l'ordre maronite, hein, où il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes, son discours, une dizaine de fois, le mot « paix », il l'a répété.
Oui.
Il a aussi rappelé que, en tant que chrétiens, nous étions des artisans de paix. Ça, c'est quelque chose qui est revenu en boucle. Ce qui m'a le plus touché à Pkerké, c'est l'intervention spontanée d'un jeune Libanais d'une trentaine qui a défié un peu le service d'ordre, mais le Saint-Père l'a autorisé. Il est venu s'agenouiller, demander sa bénédiction, et il a pris la parole. Et je vais vous rapporter, parce que, autant que la visite du pape, on ne peut pas la décrire. Elle a quelque chose de magique pour tous les fidèles. Et si vous saviez, même des Libanais de la montagne libanaise, qui sont venus avec leur tenue de folklore, avec des pluies diluviennes. Et la plupart étaient des musulmans venir lui rendre hommage. Mmh. Donc, vous voyez, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame par rapport à ce qui se passe autrefois et aujourd'hui. Alors, ce jeune, il s'est confié au monde et au Saint-Père en lui disant, « Père, voilà, je suis Libanais, j'aime beaucoup mon pays. Or, aujourd'hui, j'ai envie de fonder une famille, parce qu'il connaît une jeune femme. Et en même temps, quel avenir je peux avoir ?
Oui.
J'ai des compétences et je ne peux rien faire. Depuis des années, vraiment, nous sommes dans un état. Et je peux du jour au lendemain partir au Canada, où j'ai des amis et des cousins, où je peux avoir tout de suite le visa, la nationalité et un plein emploi. Mais il a dit, Saint-Père, je ne le ferai pas. Parce que si je le fais comme tout le monde, que reste-t-il pour le Liban ?
Oui.
Nos racines chrétiennes, elles sont là et je reste quand même. Il a été applaudi.
Quelle responsabilité.
Et j'ouvre oui. une petite parenthèse pour moi qui aime ce pays qui est devenu le mien. Je pense que le problème fondamental de la France avec sa laïcité, pardon, hein, je suis pour la séparation,
oui.
elle est devenue une fatwa, la laïcité. Et je pense parce que la France et l'Europe a renoncé à ses racines chrétiennes que nous sommes aussi dans ce bourbier. Et cela me rappelle ce que sa béatitude me disait en parlant de et à l'époque, donc c'était il y a 3 mois, le Liban avait un sursis. Depuis 2024, il y avait eu un cessez-le-feu, donc il y avait un sursis, et il y avait un relan d'espoir pour la première fois. Et sa béatitude me dit, mais l'Occident est aussi irresponsable. L'Occident, avec ses excès, il sème la division, il sème la discorde, et en même temps, ça fait le terreau des djihadistes, ça fait le terreau de la misère, et ces gens-là vont au djihad d'une façon aveugle.
Oui. Alors, le pape est resté là-bas quelques jours. Il a donné un souffle d'espoir, d'espérance. Et puis, actuellement, il y a la guerre qui fait des ravages. On avait l'impression que peut-être ce voyage allait enclencher un processus. Et en fait, c'est tout le contraire, comme si le malin se déchaînait.
Mais absolument. Il faut oser. Vous avez raison, France, de parler du malin, parce que je ne suis pas dans les exorcismes, mais les diables existent, ce sont des anges déchus. Et vous voyez, ce qui se passe là-bas, c'est le paradoxe. C'est un pays martyr. Il est impliqué. Oui, alors à propos du pape, vraiment, moi j'ai senti, parce que j'ai passé une semaine et j'ai côtoyé des Libanais de toutes tendance, y compris des musulmans, il y avait un début d'un renouveau d'espoir.
Oui.
Il y a eu quelque chose, malgré les 50 ans, parce que ça fait 50 ans que le Liban subit, après 15 ans de guerre civile, il y avait, et voilà, à peine 100 jours, et voilà, le Liban malgré lui. Alors les gens ne comprennent pas qu'il y avait, pour la première fois, il y a une prise de conscience de toutes les communautés, je dirais pas religieuse, mais politique.
Oui.
À savoir, parce que le Saint-Père leur a dit, il faut que vous preniez vous-même votre destin en main. La paix ne peut venir que de par vous. Malheureusement, les pressions sont là. Pour ne parler de Hezbollah, il faut
oui.
savoir qu'il y a beaucoup de Libanais. Mais il y a aussi beaucoup de déserteurs syriens qui ont fui le régime, puisqu'il a changé, et qui ont rapatrié. Donc, compte tenu de cette guerre suicide, parce qu'elle est suicide dans les deux sens, à mon avis, il se trouve qu'au niveau du commandement iranien, on leur a beaucoup dépêché des militaires pour encadrer, parce qu'ils n'ont plus de tête.
Le Hezbollah.
Hezbollah.
Parce qu'on dit que...
Vous voyez, donc ils ont été entraînés malgré eux,
oui.
et c'est sûr, le déclic a fait une réaction exagérée d'Israël. La réaction des...
Mais
moi,
oui.
je peux comprendre, mais je ne justifie pas. 1000 morts en 10 jours, dont beaucoup d'enfants, mais qui s'en soucie ? Vous savez, il y a des chrétiens au sud, dans
oui,
des petites,
je sais
petites
bien.
Villes. Il y a un prêtre qui a payé un lourd tribut.
Oui.
Bon, parce que simplement, ils ne veulent pas quitter leur pays. Parce que ça va être une terre brûlée et une terre occupée.
Ils le disent. Ils
mais
le
oui,
disent qu'ils ne veulent pas partir.
Ils leur restent ça,
oui.
ils le disent. Il leur reste ça.
Et ils le font.
Et vous savez, je ne fais pas de la politique. Mais avec tout le respect que j'ai pour le président de la République, sa première visite dans ces cas d'urgence, d'aller à Chypre, je veux bien, Mais Chypre, c'est quoi? C'est un département anglo-turc. Bon, pour parler de l'Europe, alors qu'il aurait dû aller au Liban.
Bien entendu.
Je ne vous cache pas que sa béatitude m'a dit que c'est vrai que la voix de la France, c'est la seule qu'on pouvait entendre, que la France venait aider le Liban, qu'il y a des choses positives, mais simplement, Israël n'écoute pas. Vous savez, c'est vraiment la loi du talion, mais à la puissance 100.
Mais oui. En fait, on n'est pas dans la loi du talion. On est, en fait, c'est pas équilibré du tout.
Mais pas du tout.
Oui, oui, oui. Alors, Jean-Claude, comment voyez-vous la situation maintenant au Moyen-Orient avec ce qui se passe? Parce qu'il y a des chrétiens aussi en Iran. Nous en parlions avec Régis Le Sommier il y a quelques semaines, qui, là-bas, ne souffraient pas trop de persécutions. Mais enfin, globalement, on n'en parle pas parce que cette guerre, j'ai l'impression qu'on oublie les chrétiens.
Mais non seulement on les oublie, mais vous voyez, il y avait une émission là qui précédait. J'ai entendu par rapport à l'islamophobie, etc. Vous savez, on dit souvent, à tort ou à raison, que les premières victimes sont des musulmans. C'est vrai, quand c'est des guerres fratricides, il y a beaucoup de musulmans. Oui, mais il faudrait quand même pas tomber dans les excès. Dans ce sens, est-ce que les gens prennent conscience que les communautés chrétiennes, ce sont les plus persécutées dans le monde?
Oui.
Quand je vous ai rencontré la dernière fois à cette émission, nous étions à 360 millions de chrétiens persécutés dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes à 380. Donc, si vous voulez, et l'Occident ne donne pas l'exemple. Quand je parle de l'Occident, que ce soit des États-Unis, que ce soit l'Europe, etc., je ne sais pas. Je pense, je ne suis pas devin. Beaucoup font des hypothèses. Or, le souci d'aujourd'hui, quand il y a 6 ou 7 morts américaines, le monde tremble, le monde médiatique américain,
oui,
comme si les Iraniens, comme si les Syriens, comme si les Libanais, comme si les Palestiniens n'avaient pas la même valeur de vie.
Oui.
Tout le problème est là, à savoir quelle valeur on veut dans ce 21e siècle. Maintenant, ce dont on ne parle pas, la Chine et la Russie, ils sont là et ils ne sont pas inactifs, seulement ils agissent. Là, nous sommes dans un engrenage où, une fois de plus, je trouve qu'il y a une forme d'arrogance. Autant, je pense, vous savez, qu'en même temps, j'entends d'une façon humiliante, bien que je ne sois pas pour le régime, parce que j'ai vu comment 30-40 000 Iraniens sont morts parce qu'ils voulaient vivre librement.
Oui.
Or, quand j'entends que les Américains frappent et qu'ils disent que les gardiens de la Révolution ou les passe-d'arrant se cachent comme des rats, je ne suis pas pour ce régime. Mais ils se cachent, pourquoi ils voudraient qu'ils soient à l'air libre pour qu'ils reçoivent les bombes? Alors, je voudrais une parenthèse.
Oui.
Mais par rapport aux militaires, je vais vous dire, les guerres jusqu'au XXe siècle, elles étaient terribles, misérables, mais il y avait une forme de loyauté, c'est-à-dire quand elles étaient sur terre, les soldats affrontaient face à face dans les tranchées, que ce soit la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Or, aujourd'hui, pour éviter l'impopularité du Trump, il ne met pas des soldats au sol. À ce moment-là, il pourrait parler si les autres se cachent toujours comme des rats. Je crois que cette confrontation est inévitable, je ne la souhaite pas. Vous savez, depuis 50 ans, je me bats pour la paix, pour la paix au Proche-Orient en particulier. J'ai été invité même à une conférence internationale sur la paix et la justice, 1 an avant les printemps arabes. Et en 2008, le moufti de Syrie, qui est un religieux, il a été invité au Parlement européen. À l'époque, son discours a duré 30 minutes. Mais il a dit à l'époque qu'il souhaitait la paix avec Israël, avec le monde, etc. Il a dit, mais si vous détruisez le Saint-Sépulcre, si vous détruisez le mur des lamentations, si vous détruisez Aqsa, un jour, les générations reconstruiraient. Mais si vous détruisez la vie d'un enfant, qui peut la reconstruire? Il n'a pas été entendu. Et moi, j'avais envoyé une lettre au moment des printemps arabes au président du Parlement européen en lui faisant part de mon souci par rapport aux chrétiens de Syrie, bien sûr, et du Liban. Aujourd'hui, vous savez, je me demande comment, à part la prière, à part des révolutions, pour sortir de ce bourbier?
Alors, il nous reste 2 minutes. Je voudrais en profiter pour rappeler que le 10 et 11 avril prochain, il y aura à l'église Saint-Roch à Paris un événement de 24 heures de messe non-stop. Nous avions fait une émission là-dessus. Ce seront des messes qui seront célébrées pour la paix et pour tous les chrétiens persécutés. La première messe aura lieu à 19h30 à l'église Saint-Roch, donc à Paris, sera célébrée par le père Laurent Chauvin. Et la dernière messe aura lieu 24 heures après, célébrée par Monseigneur Cata, qui est vicaire épiscopal à Paris et qui pourra ainsi clôturer ces 24 heures de messe et de confession. Il y aura des messes dans tous les rites moyen-orientaux et latins rattachés à Rome. Donc, moment de communion, de prière. Jean-Claude, il nous reste une minute. Je sais que vous avez des projets. J'espère que vous viendrez nous en parler prochainement. Ce sont des projets d'une série. Vous êtes actuellement en train d'écrire.
Avec un couple de scénaristes, oui.
Voilà.
Une adaptation de mes livres.
Oui.
Il est difficile en une minute de vous en parler.
Oui.
Avec un couple, c'est une série de 10 épisodes. Il faudrait un miracle financier, un producteur qui croit, parce que ce n'est pas pour raconter ma vie, mais bien plus, quelque chose d'important qui touche le monde entier. Avant de terminer, je voudrais quand même dire deux mots, parce que j'ai rencontré à cette occasion au Liban, Mariette,
oui,
qui est à 15 000 icônes, bon, où il se passe des choses extraordinaires.
Oui.
Myrna a eu la gentillesse de venir jusqu'à Notre-Dame du Liban,
oui,
où j'ai pu aussi avoir un contact avec elle, savoir ce qu'elle devenait. Et puis en même temps, les derniers événements de Soufanier, quelque part, le bon Dieu continue à apporter,
mais bien sûr,
ses grâces,
oui,
ses miracles, mais il faut que les hommes de bonne volonté, et en particulier les politiques et les médias, diffusent la vérité. C'est ce que m'a dit sa béatitude. Il faudrait qu'on soyons la conscience de la vérité, parce qu'avec le mensonge et la tromperie, on ne peut pas aboutir à la paix et à la justice.
Merci beaucoup, Jean-Claude. Nous
C'est
terminons avec vos mots. Merci.